Il faut dormir 7 nuits à 7 heures par semaine. Donc, c'est pas 49, 7 fois 7. La fatigue, c'est l'effondrement de vos performances. Une privation chronique de sommeil, une très mauvaise hygiène de sommeil. Vous montez votre inflammation de Bagrane, vous allez avoir un stress cérébral important qui va faire que vous pouvez modifier les relations entre les neurotransmetteurs ou la production des neurotransmetteurs.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet de l'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de 1000%. On a la chance de recevoir de nouveau le professeur Philippe, Pierre Bonjour. Philippe, psychiatre, surtout médecin du sommeil. C'est le chef de service de la médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. C'est bien ça ?
Oui, je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux.
Magnifique. Donc, qui de mieux placé que vous pour nous parler de sommeil aujourd'hui ? Dans ce second épisode, j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu quelques petits éléments. On ne va pas prendre trop de votre temps là-dessus, mais revenir un tout petit peu sur le premier épisode qu'on avait fait avec vous, où on avait parlé de qualité du sommeil, des sujets qui sont abordés par plein de personnes sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce n'est pas toujours des personnes qui font autorité dans le milieu qui nous parlent de ce sujet-là. Donc, dans le précédent épisode, si je peux rappeler juste quelques petits points clés de ce que nous aviez évoqué sur le sommeil, c'est qu'il y avait quand même une relation, c'est la santé liée au sommeil, et non pas juste l'aspect de la santé mentale, mais une transversalité sur le système immunitaire, sur le système cognitif, sur les risques cardiovasculaires, sur les risques infectieux également, et sur la résistance à l'insuline, sur la gestion du poids. Vous nous avez parlé des 3 clés principales du sommeil. C'était la régularité, avec les heures de lever et de coucher, qui était prépondérante. La durée du sommeil, qui souvent n'était pas suffisante pour la majorité de la population, où on avait besoin entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Et forcément, la qualité du sommeil, avec la température de la chambre, la lumière, et tous les éléments exogènes extérieurs qui pouvaient influencer cette qualité. Je pense que ce qui m'a le plus marqué sur le premier épisode, c'était cette notion de pression du sommeil. Ces 17 heures nécessaires à patienter entre le moment du lever et le coucher pour avoir une qualité de sommeil optimale et avoir ce sommeil profond le plus efficient possible en première partie de nuit. Est-ce qu'il y a une fausse note sur tout ça ou pour le moment on est…
Non. Alors en fait, la pression du sommeil, surtout ce que ça vous donne, c'est de la continuité de la durée de sommeil. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire que vous allez vous endormir et que vous n'allez pas vous réveiller au cours de la nuit justement pour avoir une continuité de sommeil. Après, la qualité, ça a d'autres composantes aussi, c'est-à-dire les types de stades de sommeil, la profondeur, les facteurs externes qui peuvent nuire à la qualité de votre sommeil, comme la literie, le bruit, la température, enfin on en reparlera.
Et la pression du sommeil, vous disiez que ça allait catalyser les zones de sommeil profond et paradoxal aussi, non ?
Catalysé, je pense pas que j'ai dit ça, mais ce que ça fait, c'est que la pression de sommeil, en fait, ça permet à votre cerveau d'enclencher un changement d'état de conscience qui va vous plonger d'abord dans le sommeil lent profond, puis après dans des épisodes de sommeil lent léger, alternant, puis petit à petit, de plus en plus de sommeil paradoxal. Donc, c'est l'architecture normale de la nuit et c'est, on va dire, la fonction physiologique complémentaire de l'horloge circadienne qui vous permet de vous endormir tous les jours, d'avoir une durée de sommeil à peu près égale et de vous réveiller normalement, naturellement, sans horloge ou sans réveil, quand vous avez accompli votre quota de sommeil suffisant.
Parfait. Professeur Philippe, est-ce que vous pourriez nous parler, avant qu'on passe sur le côté, il y a tout le plan que présentera Vincent par la suite, vous pouvez nous parler un petit peu de vos actualités, parce que vous avez quand même sorti des ouvrages pour aller un peu plus loin. C'est toujours pareil, d'écouter des podcasts, c'est bien, mais pour aller un peu plus loin. Eh oui, mais ce serait trop simple si c'était juste en une heure qu'on pouvait avoir tous les éléments.
Le quart d'heure publicité, je crois qu'on va bientôt parler de fatigue dans le podcast. Donc, un des sujets importants là auxquels on est confronté, en particulier depuis le Covid, c'est les éléments de santé mentale. Vous savez qu'il y a un plan national de sommeil qui a été lancé, qui est intégré dans la dimension de santé mentale. Donc là, j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle Antidéprime, justement. On aura l'occasion d'en reparler parce que justement, dans cette dimension de fatigue, il y a des dimensions plutôt d'insomnie, des dimensions plutôt de dépression, des dimensions plutôt de fatigue physique. Donc c'est important de pouvoir les différencier. Justement, on a mis des échelles dans le livre. Donc on aura l'occasion de reparler de ça. Et puis je pense que le plan de santé mentale, c'est aussi une assez grande victoire pour la communauté des spécialistes du sommeil, parce que l'objectif, c'est de lancer une campagne de prévention nationale qui s'appuie sur manger, bouger, et qu'on va transformer en manger, bouger, dormir. Donc c'est le triptyque, si vous voulez, qu'on recherche depuis des années et qui va pas mal nous aider justement à promouvoir l'hygiène du sommeil.
Parfait. Et le deuxième ouvrage que vous avez sorti,
c'est un ouvrage un petit peu plus ancien, mais c'est un ouvrage qui marche très bien et qui existe d'ailleurs en livre de poche pour les gens qui ont un petit peu moins de sous. Et c'est un ouvrage avec des fiches qui vous permet justement d'avoir des informations généralistes, un petit peu le béaba de l'hygiène du sommeil pour tous, avec les grands repères, les définitions, justement expliquer qu'est-ce que c'est que la pression homéostasique, les horloges biologiques, et puis détailler aussi les maladies, parce que malheureusement, on peut avoir des maladies organiques du sommeil aussi.
Donc, réapprenez à dormir.
Oui, toujours chez Albin Michel.
Mais parce que on pense que c'est inné de dormir, mais il y a quand même des stratégies et des tactiques pour arriver à avoir un sommeil de qualité optimale.
Alors, je le définirais pas comme ça. Je dirais que si, par exemple, vous prenez le sommeil des populations qui sont en aire pré-industrielle, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas électrifiés, qui ne sont pas chauffés, qui vivent dans la savane ou dans des zones tribales, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils s'endorment bien après l'heure de coucher du soleil, à peu près 3 heures, ils se réveillent une heure avant et ils dorment entre 5 et 7 heures. Et ils ont beaucoup moins de plaintes de sommeil que nous. Donc c'est pas tellement de tactique, hein, c'est juste que ça répond aux besoins des gens et il y a une fausse croyance qui dit qu'avant on s'endormait quand le soleil se couchait, quand le soleil se levait. Bah, c'est pas ce qu'ont montré les études sur ces populations-là. Donc il y a bien une temporalité qui est indépendante et avec la lumière. Et l'élément le plus déterminant dans les variabilités de la durée de sommeil de ces populations, c'est la température externe, parce qu'ils ne sont pas chauffés. Et ce que montrent les études, c'est qu'en gros, on dort une heure de plus l'hiver en avançant l'horaire de coucher, et donc par voie de conséquence, une heure de moins l'été, et que c'est la température corporelle qui va le plus jouer. Et donc dans nos sociétés où on a des chauffages permanents et des températures assez régulières, mais justement, une des raisons de perdre le sommeil, c'est de ne pas avoir ce pic hypothermique nocturne pour nous aider à nous endormir.
Oui, vous dites que le sommeil, c'est finalement que du comportement. C'est des comportements de santé accumulés qui vont permettre d'avoir une bonne hygiène de sommeil.
Non. Ce que je dis, c'est que le sommeil, c'est un déterminant physiologique et génétique qui est produit par votre corps. Ce n'est pas des comportements, d'accord ? C'est-à-dire que si vous essayez par des comportements de ne pas dormir, vous allez voir que très rapidement, ça ne va pas du tout marcher. vous allez casser votre voiture ou vous allez vous faire licencier de votre emploi parce que vous ne serez pas opérationnel. C'est votre corps qui produit le sommeil parce que c'est une fonction physiologique, comme la respiration et l'alimentation. Par contre, on est dans une société où des comportements toxiques peuvent massivement altérer le sommeil. Mais le sommeil n'est pas généré par des comportements.
Oui, je me suis mal exprimé, mais en vous écoutant, j'avais l'impression que vous disiez c'est un ensemble de comportements qui vont permettre de reprendre le contrôle de son sommeil.
Non, c'est pas des comportements, hein, c'est des faits. C'est-à-dire, physiologiquement, votre corps, sans aucun comportement, il vous dit, 3 heures après le coucher du soleil, endormez-vous.
Ok, ok. On va passer sur la fatigue. On est tous entourés de gens très fatigués. Votre livre Anti-déprime, c'est un peu le reflet de ce qu'on peut voir dans notre société, hein, des gens qui sont pas en forme. Comment vous pouvez décrire ce spectre entre somnolence, fatigue et dépression et déprime?
Alors, d'abord, je pense que ce qui est important de visualiser, c'est que entre la période avant le Covid, la période du Covid où il y a eu beaucoup de confinement, et après la sortie du Covid, ce qu'on a vu, c'est que les plaintes de sommeil s'étaient massivement accrues pendant la période des confinements, qu'elles n'ont pas beaucoup baissé. On est encore à pratiquement 60% de la population qui dit dans la semaine, j'ai eu une plainte variable, même transitoire de sommeil. D'accord ? Et après, par contre, on a à peu près 18% de gens qui disent je suis déprimé et un tiers qui disent je suis anxieux. Ce que nous a beaucoup appris la période du Covid et tout ce qu'on a pu découvrir avec notre application Canopé, là, qui est une application gratuite téléchargeable, on en reparlera peut-être, c'est qu'en fait, un pourcentage important de gens ont développé des comportements d'irrégularité, de lever et de coucher du sommeil, en particulier en continuant à se lever au même horaire dans la semaine, mais en couchant assez tard, donc en cumulant une dette de sommeil, et en rebondissant le week-end. C'est-à-dire en reprenant du sommeil le week-end, mais surtout en décalant l'horloge du lever, ce qui a un rôle extrêmement délétère sur l'horloge biologique qui contribue à massivement faire exploser les plaintes de sommeil. Donc là, par contre, comme vous le disiez, Vincent, les enjeux de comportement sont extrêmement importants pour expliquer les pathologies. Et en particulier, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'irrégularité des horaires de lever et de coucher, c'est un facteur de survenue de la dépression. C'est ce que j'explique dans Antidéprime, et que quand vous êtes déprimé et en plus fatigué parce que vous avez une dette de sommeil, il y a une espèce de facteur confusionnel où on ne sait plus très bien pourquoi ça ne va pas. Donc, une des idées d'Antidéprime, c'est justement d'avoir mis des petites échelles, je vais vous en montrer une ou deux, vous voyez, très très simples à compléter, qui sont des échelles qui permettent justement d'avoir des scores pour savoir si vous êtes dans la norme par rapport à vos plaintes insomniaques, par rapport à votre niveau de fatigue, par rapport à votre humeur, à votre dépression, et par rapport à votre score de somnolence aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fatigués, mais qui sont somnolents, ils le traduisent comme une fatigue, mais en fait, ils sont somnolents parce qu'ils manquent de sommeil ou qu'ils ont une maladie. Et donc, je pense que le premier message à délivrer, c'est de dire, faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer tous ces symptômes-là qui aboutissent à peu près à la même compétence, c'est-à-dire, j'en peux plus, je suis épuisé. Et donc, l'intérêt, je pense, pour la santé mentale, c'est qu'on est en train de découvrir qu'en termes de fréquence, c'est une cause extrêmement fréquente d'handicap et de perte de fonction cognitive qui n'est pas toujours identifiée en tant que telle parce que soit on va adopter un rythme de vie socialement acceptable et on dit « je suis fatigué » alors qu'on va plutôt à l'encontre de sa physiologie, soit aussi parce que, passez-moi l'expression, on tire sur la corde et à un moment donné, on arrive à un point où on est un point de rupture. Alors, pas forcément un burn-out parce que c'est un terme qui est galvaudé maintenant, mais quand même un terme d'épuisement social avec des dettes chroniques de sommeil.
Oui, parce que, est-ce que vous pouvez définir pour les auditeurs, parce que nous, on est du Sud et on dit on est fatigué. Et je pense que le mot de fatigue, il englobe dans la société un sentiment de somnolence, de surcharge, de fatigue. Est-ce que vous pouvez bien définir la somnolence et la fatigue pour que les auditeurs puissent se situer?
Ouais, alors la somnolence, c'est l'incapacité à se maintenir éveillé. D'accord? Donc c'est assez simple, vous êtes dans la journée, puis tout d'un coup, dès que vous avez l'occasion, vous fermez les yeux, boum, vous tombez endormi. Bon, ça crée un handicap fonctionnel et cognitif, et qui fait que, par exemple, si on conduit une voiture, à un moment donné, on est obligé de s'arrêter parce qu'on roule plus droit. Bon, La fatigue, c'est un petit peu différent. C'est la dégradation progressive des performances avec à terme un épuisement, et le traitement, c'est le repos. Donc, malheureusement, dans la vie courante, il y a une combinaison de fatigue liée souvent à une dette de sommeil. C'est-à-dire qu'on combine les deux. En gros, on dort moins parce qu'on a plus de choses à faire, et on arrive à la situation où on combine à la fois dette de sommeil et fatigue. Mais il y a aussi des gens qui peuvent avoir un phénomène d'épuisement parce qu'ils ont une charge mentale trop importante. Et puis, il y a aussi quand même pas mal de gens qui sont dans une situation de crise psychologique, d'anxiété importante, et qui, eux, vont plutôt développer des troubles anxio-dépressifs qui vont se manifester par un épuisement.
Quelles sont les clés, là je suis un auditeur, quelles sont les clés pour définir si je suis somnolent ou fatigué pour vous?
Les échelles.
Ok.
C'est les seuls outils validés qui permettent d'avoir un score, qui permet de reconnaître le niveau d'éveil.
Ok, donc c'est un questionnaire. Quelles sont les questions type
Alors, sur la somnolence, c'est l'incapacité à vous maintenir éveillé dans des situations variables. Sur l'insomnie, c'est l'incapacité à s'endormir. Et sur la fatigue, c'est la pénibilité pour la poursuite des tâches.
Ok.
Un ralentissement cognitif.
Pour la dépression, bien entendu, c'est tout le cortège de la dépression. Excusez-moi, je prends un petit bout de banane pour l'énergie.
Oui.
Allez-y.
C'est quand on définit fatigue, c'est un ralentissement cognitif, c'est du mal à effectuer les tâches.
Un épuisement à terme des performances.
Oui, d'accord. Oui, c'est vraiment comme ça que vous le définissez, c'est une baisse des performances, que ce soit cognitive ou physique.
Absolument, ça peut être une fatigue physique aussi, le traitement c'est le repos.
Et la somnolence, quelles sont les causes de la somnolence? Alors c'est la dette de sommeil, c'est les insomnies.
Alors, les insomnies, classiquement, ça ne rend pas somnolent. Enfin, sauf si vous avez une insomnie objective, mais c'est plutôt très rare. Il peut y avoir des facteurs confondants de somnolence, mais c'est plutôt une somnolence à type de fatigue, parce que dans les questionnaires subjectifs, il y a une confusion, il y a une perméabilité entre les symptômes évocateurs de fatigue et de somnolence. Souvent, les gens confondent. Mais les grandes causes, c'est la dette de sommeil. Et puis, c'est les maladies comme le syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, beaucoup plus rarement la narcolepsie, qui vont vous rendre somnolent. Donc, c'est deux mécaniques très différentes.
Est-ce que dans cette problématique de somnolence, quelqu'un qui se dit « bon, je dors mes 8 heures par nuit, en tout cas, j'ai ces 8 heures par nuit », je peux être plutôt sur quelque chose, une problématique liée plutôt à de la fatigue plutôt qu'à de la somnolence.
Si vous avez une maladie du sommeil, vous allez dormir 8 heures, mais votre sommeil n'est pas réparateur.
Donc, c'est pas à voir avec. Il y a la durée, forcément. Il y a cette régularité du sommeil qu'on a vu.
Il y a la qualité.
Il y a la qualité surtout. Oui. Parce que si je me bois un verre d'alcool tous les jours avant d'aller me coucher, c'est.
Par exemple.
Et non, mais docteur, je dors vraiment mieux hein, après avoir bu un petit verre avant d'aller me coucher. Et là, c'est ce que vous entendez souvent.
Vous allez vous endormir plus rapidement, mais vous allez dormir beaucoup plus mal parce que vous allez vous réveiller soit pour faire pipi, soit parce que le sommeil est fragmenté par l'alcool en deuxième partie de nuit. Donc ça, on sait que les gens qui consomment de l'alcool régulièrement, ils ont un plus mauvais sommeil que les gens qui ne prennent pas d'alcool.
Et quantité, régularité, c'est assez simple à visualiser. Parfois, la qualité, ça peut être un petit peu compliqué. Quels sont les paramètres pour définir la qualité de sommeil?
C'est le niveau de repos et d'énergie au réveil, vraiment.
Quand
vous vous réveillez, comment vous vous sentez? La façon la plus simple de le définir, c'est la qualité du sommeil, c'est vous vous réveillez le matin, vous êtes en forme et la journée, vous avez la pêche et vous déroulez toute votre journée sans aucun sentiment de fatigue.
Ce niveau d'énergie à noter, c'est au moment où j'ouvre les yeux dans mon lit, je fais un scream.
C'est au moment du réveil, c'est-à-dire c'est dans l'heure où vous vous réveillez, vous dites j'ai bien dormi. Quand vous vous réveillez, vous avez parfois un phénomène d'inertie du sommeil, donc vous le savez tous. Quand vous vous réveillez, des fois, vous mettez un petit peu de temps à
ouvrir les yeux. Je le connais bien, ce sentiment d'inertie.
Voilà, et le premier café change la vie, on va dire. Mais globalement, si vous voulez. Si au bout d'une heure, après le réveil, vous dites « j'ai envie d'aller me recoucher », Aussi.
Tout ça, la qualité est vraiment liée à l'énergie du lendemain, spécifiquement sur le matin, sur le réveil et tout au long de la journée.
Oui. Qui est une notion un peu différente de la somnolence, parce que la somnolence, c'est vraiment j'ai besoin de dormir pour me régénérer, alors que parfois, les gens qui ont une altération de la qualité du sommeil, ils disent juste je suis pas bien dans la journée, quoi. J'ai pas la pêche, j'ai pas l'énergie, vous voyez. Donc, c'est des frontières un petit peu compliquées, parce que il y a des gens qui sont insomniaques, par exemple, qui ont un quota d'heures de sommeil suffisant, mais avec des éveils intranocturnes, et ils le vivent très mal parce qu'ils disent qu'il y a une vraie altération de la qualité du sommeil.
Et pour revenir sur une des causes de la somnolence, c'est la dette de sommeil. Vous dites, enfin, j'essaye de vous citer, mais à chaque fois vous me dites non, mais je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal là. C'est 7 fois 7, 49 heures, donc bon, 50 heures de sommeil pour être régulier dans sa semaine. Et si on loupe une heure par nuit, ça équivaut à une nuit blanche, en fait.
Ouais. Bah, c'est peut-être une nuit blanche, c'est peut-être un petit peu caricatural, peut-être c'est plus de l'ordre de 10 nuits, mais en gros, le message, c'est il faut dormir 7 nuits à 7 heures par semaine. C'est ça la notion importante. C'est pas 49, la notion importante, c'est 7 fois 7. Ça veut dire que toutes les nuits, on dort au moins 7 heures. Ça veut dire que vous avez un sommeil régulier en termes de durée. Et statistiquement, très probablement, ça veut dire aussi que vous avez une régularité d'horaire de lever, parce que quand les gens commencent à bouger massivement leurs horaires de lever et de coucher, généralement, la durée, elle se comprime aussi.
Sur cette histoire de qualité du sommeil, qu'est-ce que vous pensez des outils d'évaluation du sommeil qui sont mis à disposition du commun du mortel? C'est-à-dire les montres connectées ou les anneaux connectés que vous testez avec vous. Le niveau d'erreur de ces appareils, ça, qu'est-ce que ça donne, professeur Philippe, par rapport à un polysomnographe? On sait que ça, ce serait le gold standard, c'est-à-dire la référence même. On ne peut pas avoir ça chez soi. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, si on parle de santé liée au sommeil, avec les trois dimensions durée, régularité, qualité, un polysomnographe, ça enregistre les gens une nuit, schématiquement, parce que vous n'allez pas recoller les électrodes toutes les nuits.
C'est gros problème.
Donc, un polysomnographe, ça ne sert pas à évaluer typiquement des enjeux de régularité, par exemple. Les enjeux de régularité, on les traite plutôt avec des actimètres, ou des bracelets connectés, ou maintenant des bagues connectées. Bon. Ce que font ces outils-là, c'est qu'ils mesurent vos mouvements et votre fréquence cardiaque et ils extrapolent avec des algorithmes assez sophistiqués les périodes de repos en disant ça c'est du sommeil et les périodes de mouvement en disant ça c'est de la veille. Bon. Globalement, chez des sujets normaux qui n'ont pas de problème de sommeil type syndrome d'apnée ou mouvement anormaux, on arrive assez bien à discriminer le sommeil de la veille. Donc si la question est combien je dors de minutes par nuit, le boulot est pas trop mal fait. Quand on commence à rentrer en disant combien je fais de sommeil lent profond, combien je fais de sommeil paradoxal, ça commence à être moins clair. Il y a beaucoup moins de publications. Et dans l'ensemble, il y a assez peu de dispositifs qui ont été validés. Alors, je vais pas faire de publicité dans ce podcast, mais vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez vérifier. Mais il y a un déséquilibre majeur entre le nombre de dispositifs accessibles, que ce soit des montres, des bracelets connectés, y compris les plus vendus, et même de marque française, ou les bagues connectées, et les dispositifs réellement validés. Donc ça, c'est aussi un élément important, parce qu'il y a plein de gens qui viennent en me disant « Mais regarde, j'ai fait 23 minutes de sommeil lent profond. » Je dis « Du calme, ça, il n'y a aucune validation scientifique dessus. »
Mais il y a certains outils validés quand même? Juste pour...
Oui. Il y en a, je
vais
pas vous citer les marques, mais il y a des marques américaines, il y a des marques finlandaises.
Sur 1000%, vous avez le droit de citer des marques, hein, si vous voulez, pas de souci.
Je crois que c'est la télé, là. Pas le droit.
On n'est pas à la télé, nous.
Ouais, mais quand
vous.
Même.
Okay.
Voilà. Enfin, on ne fait pas de publicité. Mais ouais. Bon, c'est assez facile d'aller rechercher sur les réseaux... les publications, et puis nous, on publie assez régulièrement aussi là-dessus, sur mon compte Instagram, la pr.philippe, on fait des podcasts et puis on fait des posts où on répond justement à ce type de questions et on y associe des publications scientifiques, c'est important, parce que quand un dispositif a été testé, ben, généralement, pour que ça soit crédible, il y a une publi avec.
Et est-ce que l'intérêt, c'est pas d'avoir un outil de mesure qui nous permet de s'engager dans cette santé du sommeil, le fait de regarder ces variations, même si l'outil est pas très spécifique, ça permet à la personne de se prendre en main, d'être motrice et actrice de sa santé.
Alors, ça, on peut très bien le faire avec un papier et un crayon, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, je vous recite un exemple de mon livre, mais l'outil le plus ancien, le plus validé, le plus simple et le meilleur marché pour déterminer comment est-ce qu'on dort, c'est ce qu'on appelle un agenda de sommeil, et on le complète avec un papier et un crayon, c'est extrêmement efficace, et ça vous permet de déterminer comment est-ce que vous dormez dans la semaine, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez des horaires de coucher, ouais. Les horaires de coucher, les horaires de lever, et vous identifiez très rapidement comment les gens dorment, les décalages, vous voyez, les horaires de lever, et ça donne des typologies, des profils qui sont très précis. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un des problèmes du monitoring un peu obsessionnel, en particulier avec des objets connectés, c'est ce qu'on appelle l'orthosomnie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de développer une pathologie parce qu'ils s'obsèdent à l'idée de dormir systématiquement la même durée. Et ça, ça marche pas du tout. C'est comme si vous disiez, j'ai envie de manger une banane ou j'ai envie de faire l'amour tous les jours exactement à la même heure. C'est un non-sens. Bon. Donc, il y a aussi un message à faire passer en disant, le sommeil, c'est une fonction physiologique, et donc on peut avoir naturellement des variations, des fluctuations, et donc il ne faut pas s'obséder à ça. Ce qui est important, c'est comme vous le disiez, schématiquement, 7 x 7,49, donc être dans un cadre un petit peu régulier, et un simple agenda de sommeil, on en a créé un téléchargeable gratuitement dans l'application Canopé, ça va très très bien vous renseigner, pour vous donner une idée sur votre temps passé au lit, votre durée estimée de sommeil, votre efficacité de sommeil, qui est un très bon marqueur de la qualité du sommeil.
Donc, Canopé, juste pour rappeler aux auditeurs, Canopé, c'est une application téléchargeable qui commence par un K, K-A-N-O-P-E, voilà, avec un petit arbre.
Et pour augmenter cette qualité de sommeil, pour vous, c'est vraiment, à travers ce calendrier, trouver le timing qui correspond pour voir l'énergie le lendemain matin qui va nous permettre d'objectiver en fait cette qualité de sommeil.
Ouais, alors l'agenda de sommeil, c'est pas un calendrier, c'est un agenda. L'agenda de sommeil, en fait, ce qui vous permet, c'est de surveiller votre régularité et votre quota horaire de sommeil, principalement. D'accord? Bon, on peut dire qu'en gros, on peut varier de l'ordre de une heure et demie entre la semaine et le week-end, parce que bien entendu, le week-end, si vous allez au boulot à 7h30 la semaine, c'est plus sympa de se lever à 9h. Ce qu'on sait, c'est que si vous passez la frontière des 2h, c'est-à-dire si vous vous levez 2h plus tard, vous multipliez par 2,5 fois, par exemple, le risque de dépression. C'est ce qu'on a montré avec une publication de 2023 avec Canopé. Et on a montré en plus qu'en rééduquant les gens, c'est-à-dire en les réentraînant pour regagner en régularité, on réduisait les plaintes d'insomnie, mais aussi les plaintes de dépression. Donc on a vraiment des essais interventionnels qui montrent que non content que le trouble, la régularité du sommeil génère des plaintes dépressives, mais la correction permet aussi d'améliorer l'humeur. Donc on progresse quand même assez massivement et on est dans une prise de conscience maintenant du fait que le sommeil peut être un générateur de pathologie mentale, alors qu'auparavant on avait plutôt tendance à penser que c'était une conséquence, que c'était parce qu'on était déprimé ou parce qu'anxieux qu'on dormait mal. Donc ça c'est aussi une révolution parce que ça veut dire que dans la stratégie de prévention, en mettant en place ces outils simples de santé liés au sommeil, on peut avoir des marqueurs vraiment très importants de réduction, en particulier du stress psychosocial.
Et pour clôturer ce petit passage sur la somnolence, il y a tellement de choses à dire. Puis après, on partira plus sur la fatigue et la santé mentale. Une des causes importantes de somnolence, c'est aussi l'apnée du sommeil. Donc, il y a différentes pathologies intrinsèques au sommeil. L'apnée au sommeil, Quels sont les signes évocateurs d'une apnée au sommeil?
Alors, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, puisque c'est ça le nom officiel, on va dire, c'est un ensemble de symptômes qui combinent un sommeil non reposant, le plus classiquement une somnolence diurne excessive, la présence de ronflements et donc d'apnée la nuit, au cours de votre sommeil, qui peuvent être mesurés avec des outils objectifs, des polygraphes ou des polysomnographes, avec des seuils d'apnée différents pour la sévérité. En gros, schématiquement, on va dire, si vous avez plus de 10 à 15 apnées par heure, vous commencez à rentrer dans une zone un peu préoccupante, si vous avez des symptômes associés, bien entendu. Et puis, il y a aussi les risques cardiovasculaires associés, parce que si vous avez ces facteurs-là et que vous avez des risques cardiovasculaires associés, ça peut être un élément qui peut considérer le traitement de ces apnées.
Et dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Je crois, alors je me lance encore dans une paraphrase, hein, excusez-moi, mais je crois que vous aviez dit 10% de poids en moins, c'est 50% d'apnée du sommeil en moins.
Ouais, effectivement, parce qu'en fait, le mécanisme de l'apnée, c'est une obstruction des voies aériennes supérieures qui est liée donc à l'hypotonie au cours du sommeil. C'est-à-dire quand vous vous endormez, en fait, vous ramollissez les muscles des voies aériennes qui ouvrent votre gorge pour permettre à l'air de respirer. Et si vous mettez du poids, les hommes, malheureusement, alors, vous savez qu'il y a deux types d'obésité, une obésité androïde ou une obésité gynoïde. Les obésités gynoïdes, c'est plutôt des obésités féminines, comme on voit sur ces statues de la préhistoire avec des femmes avec des très très larges hanches, là. Les hommes, nous, on a plutôt tendance à avoir des coups de taureau. Et donc, si vous avez justement un gros coup, ben, vous allez mettre de la graisse aussi à l'intérieur et vous allez réduire le diamètre de vos voies aériennes. Et donc, quand votre langue va basculer en arrière, au moment de l'endormissement, beaucoup plus facilement, vous allez obstruer.
Ok, bah c'est très clair. Pierre, tu veux rajouter un petit truc sur la somnolence?
Non, c'est juste un petit détail technique. Est-ce que vous pourriez juste baisser un tout petit peu votre caméra pour...
Validation sur la montre.
D'accord.
Un outil que vous connaissez, vous verrez assez facilement ce qui sort.
Ça marche. Alors,
ok.
Ok. Et là, on a bien compris que le remède à la somnolence, c'était le sommeil. Maintenant, on va passer à la fatigue. Et la fatigue, le remède de la fatigue, c'est le repos. Est-ce que vous pouvez nous amener vers cette fatigue?
Alors, c'est le repos, sauf si c'est une fatigue, par exemple, liée à un trouble de l'humeur, une dépression.
Ok, allez-y.
Toutes les fatigues sont malheureusement pas physiques. Ça serait trop simple. Donc, il y a beaucoup de fatigues qui sont plutôt liées justement à des processus en lien avec la santé mentale. Et donc, c'est important de savoir justement s'il n'y a pas une pathologie dépressive associée ou un trouble anxieux, parce que là, le repos ne servira pas à grand-chose.
Donc, vous faites un continuum entre fatigue et état dépressif. Quels sont les niveaux, quels sont les paramètres pour définir cette fatigue, cette dépression?
En fait, si vous voulez, la dépression, c'est un tableau qui combine une tristesse, des pleurs, une anxiété, des troubles du sommeil et aussi quand même une grande incapacité à faire les choses. Les gens déprimés, ils vous disent je suis brûlé de l'intérieur, je suis épuisé, la vie n'a plus de sens, je n'ai aucune raison d'aller travailler. Donc ça, c'est la fatigue, hein. Si on considère que la fatigue, c'est un épuisement des performances. Mais ça, c'est très fréquent.
Et j'ai l'impression que votre définition de la fatigue, enfin, c'est pas la vôtre, mais c'est mon interprétation de votre fatigue. C'est, pour moi, je la vois comme de la surcharge, qui soit multifactorielle. Vous voyez,
on peut avoir une surcharge physique. Alors, attention, parce que là, vous regardez la longue vue à l'envers. Là. La surcharge, c'est une cause. La fatigue, la somnolence, c'est une conséquence. Par exemple, moi, je suis extrêmement surchargé de travail, mais pour l'instant,
ça tient.
Je suis pas fatigué parce que je me connais, je me gère, j'ai une bonne hygiène du sommeil. Vous voyez, c'est vraiment des éléments très très différents. La surcharge, d'abord, c'est très individuel, c'est très personnel, parce qu'il y a des gens qui vont avoir une capacité de travail très importante et l'assumer. Il y a des gens qui, au contraire, vont avoir sur des seuils de charge mentale très limités un sentiment d'épuisement ou de fatigabilité. Hein. Donc, attention un petit peu, parce que il y a des phénomènes de mode là où on jette des mots. Hein. Alors, il y a 2 ans, c'était le burn-out, maintenant c'est la charge mentale, vous voyez, les relations toxiques. Enfin bon, il y a plein de mots, mais il vaut mieux essayer d'être plus précis. Donc, la charge mentale, c'est un phénomène physiologique qui stimule vos fonctions cognitives. Vous le supportez, vous ne le supportez pas. Si à un moment donné, vous mettez dans un contexte où cette charge mentale peut déborder vos capacités cognitives, vous pouvez rentrer dans une période de vie où là, vous allez exprimer une fatigue importante parce que vous dites « je n'arrive plus à traiter la tâche cognitive, ça me prend plus de temps et là, je suis en train de m'épuiser ». C'est classiquement le paradigme d'épuisement. Les gens qui ne travaillent pas, ils ont une charge mentale X. Au bout d'une heure, ils disent « j'en ai marre, j'arrête ». Ils ne font pas d'épuisement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, attention à ne pas confondre les mécanismes générateurs et le facteur clinique qu'on veut adresser. Et vraiment, vraiment, je pense que ce qui est important, si on veut faire de l'épidémiologie de la fatigue, c'est de dire c'est quoi les symptômes associés avec cette fatigue qui prend des formes différentes. Hein. Donc, ça peut être fatigue avec somnolence, ça peut être fatigue avec épuisement physique, très rare maintenant. Ça peut être fatigue avec anxiété ou ça peut être fatigue aussi avec dépression. Et là, c'est un petit peu plus fréquent. Et puis, quand même, malheureusement, il y a aussi des gens qui ont des maladies chroniques. Hein. Si, par exemple, vous avez un diabète, vous voyez, ou si vous avez des pathologies cardiaques, c'est générateur, ou des maladies auto-immunes, ou un cancer, c'est extraordinairement générateur de fatigue. Parce que vous avez des mécanismes d'inflammation de bas grade, de stress oxydatif qui font que... Vous voyez ? Mais, encore une fois, ça, c'est des mécanismes de survenue.
Vous parlez de fatigue avec Vincent tout à l'heure. On en discutait en off. Il y a une fatigue ou il y a des fatigues ? Fatigue émotionnelle, fatigue physique, fatigue décisionnelle ?
La fatigue émotionnelle, moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est qu'il y a des fatigues. La fatigue, c'est l'effondrement de vos performances. D'accord ? Après, des performances, ça peut être des performances physiques, ça peut être des performances intellectuelles, d'accord ? Ça peut être des performances cognitives, par exemple, si vous devez dépister des chars ou des drones qui passent quand vous êtes en guerre, d'accord ? Mais c'est un symptôme cognitif qui fait qu'à un moment donné, vous ratez des choses. Après, vous avez différentes causes qui vont vous mettre ce symptôme présent chez vous de façon importante. Et ce symptôme, parce que la fatigue c'est un symptôme, il va être associé à un ensemble d'autres symptômes. Soit que vous soyez somnolent, soit que vous soyez insomniaque, soit que vous soyez dépressif, soit que vous soyez anxieux. D'accord ? Donc la bonne lecture, c'est de ne pas faire une lecture symptôme isolé, parce que ça ne marche pas. Même si globalement, la première chose que vous disent les gens, c'est « je suis fatigué ».
Et donc, le meilleur moyen d'agir sur cette fatigue, on a compris qu'elle était multifactorielle, c'est d'analyser les causes.
Voilà.
Et d'aller, quand j'ai une fatigue anxiogène, d'aller travailler cette fatigue de ce côté-là.
Ouais. Ça. Plutôt, pas une fatigue anxiogène, une fatigue liée à l'anxiété.
Oui.
Une fatigue anxiogène, ça serait parce que je suis fatigué, je suis anxieux. Là, c'est une fatigue qui est dans un contexte où mon état d'anxiété est très élevé. Bah, si vous traitez l'anxiété, il y a une très forte probabilité pour que vous soyez beaucoup moins fatigué.
Tout le fait que vous disiez à Vincent tout à l'heure, vous regardez la longue vue par le mauvais côté, c'est ça ?
Voilà, et souvent les gens prennent le problème par la conséquence, alors que si vous adressez la cause, vous allez trouver les remèdes beaucoup plus facilement.
Et c'est vrai que, ouais, je vous raconte ma vie, mais j'ai eu un épisode où j'ai eu beaucoup de charges mentales. Et je me suis senti fatigué. En fait, j'ai compris que c'était vraiment mon cerveau hein, qui n'arrivait plus à tenir. C'était la première fois que j'expérimentais ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'expérimentent autour de nous. On vit aussi dans une société où on est surstimulé. On a beaucoup d'informations. On a un besoin de performance. Cet environnement quand même de société lié à la performance et à la stimulation, comment vous l'appréhendez ?
Alors, c'est une question complexe parce que toutes ces dimensions-là d'altération physiologique, il y a encore beaucoup de recherches dessus en cours. Mais en gros, Si pour tout un tas de raisons, par exemple, si pour une privation chronique de sommeil, une très mauvaise hygiène de sommeil, puisque c'est quand même un petit peu le sujet dont on parle, vous montez votre inflammation de Bagrane, votre stress oxydatif, vous allez avoir un stress cérébral important qui va faire que vous pouvez modifier, par exemple, les relations entre les neurotransmetteurs ou la production des neurotransmetteurs. Donc, il y a à la fois une composante physiopathologique et des déterminants de conséquences et d'actions. On va prendre un exemple simple. On a des données maintenant extrêmement consolidées qui montrent que si vous avez une activité physique modérée, hein, j'en parle dans mon livre, de l'ordre de 5 à 10 minutes par jour, vous avez déjà un impact sur la dépression.
C'est même plus modéré, hein, 5 à 10 minutes. Je suis obligé de vous reprendre cette fois-ci. Mais 5 à 10 minutes...
Mais mettez-vous dans le contexte où vous êtes très déprimé. 5 à 10 minutes, ça peut être déjà un effort. Mais déjà, 5 à 10 minutes, ça va commencer à agir sur l'inflammation de Bagrane, sur le stress oxydatif, et ça enclenche un cercle vertueux où vous pouvez récupérer un petit quota d'énergie qui après va vous permettre de dérouler la pelote pour réenclencher un cycle normal. Vous voyez ?
Il ne faut pas négliger les petits efforts, c'est sûr.
Alors, c'est surtout ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les actions, et surtout il y a des actions additives. Par exemple, la régularité du sommeil, la durée du sommeil, l'activité physique, c'est antidépresseur. C'est-à-dire que si vous êtes déprimé, ça agit. L'alimentation, malheureusement, c'est préventif, mais ce n'est pas curatif. C'est-à-dire qu'on a fait des études, on a même fait des études randomisées avec des bras contrôle, avec des yaourts, avec des substances dedans, d'accord? Et on a montré que malheureusement, ces yaourts proactifs, riches en bactéries, c'est pas antidépresseur. Voilà. Donc les deux grands composants très très puissants, c'est vraiment activité physique et sommeil.
Et aussi la façon dont on se parle dans notre tête aussi, l'apprentissage à être positif, à pas basculer dans le doute ou dans le manque de confiance en soi, c'est aussi une force aussi d'être positif et bienveillant avec soi-même.
Alors, ça c'est aussi une partie du chapitre d'antidéprime, du livre d'antidéprime, c'est un chapitre, c'est toutes les stratégies qui ont trait aux thérapies cognitivo-comportementales de troisième génération, dont le mindfulness. Et l'ACT, l'Acceptance Commitment Therapy, c'est des thérapies, on va essayer de faire un simple pour le grand public, c'est en gros, vous avez des problèmes qui vous tombent tous les jours sur la tête, et un jour, vous dites, je vais faire un pas en arrière. Donc les problèmes, ils vont toujours tomber, sauf que vous allez avoir du recul, vous allez les voir tomber devant vous, et vous allez pouvoir moduler beaucoup plus finement la façon dont vous adressez ces problèmes et la façon dont vous les vivez. Voilà. Donc ça... c'est des stratégies qui commencent à être de plus en plus mises en avant et qui peuvent avoir dans une certaine mesure une action positive, en particulier pour prévenir les troubles d'endormissement ou pour aider à moduler même l'humeur, vous voyez. Donc, c'est des stratégies extrêmement intéressantes, comme la cohérence cardiaque, par exemple, qui vont aussi abaisser le niveau de stress, y compris par des composantes physiologiques.
Et... Bon, je reviens sur l'activité physique. Vous dites que c'est un remède à la dépression. Je soigne beaucoup de gens en ce moment qui sont assis toute la journée face à un écran, voire deux écrans, avec des gens autour qui sont tous assis, tous face à des écrans. Ce mode de travail en entreprise, il est aussi, je pense, un énorme facteur de fatigue. Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour retrouver du mouvement dans sa journée?
Alors, il y a des recommandations, hein, mais je crois que même le ministère de la Santé, je crois, fait des recommandations. Et en gros, le message, c'est de bouger toutes les demi-heures, enfin, de se lever de son poste, d'aller marcher 5 minutes, de revenir. En fait, l'idée, c'est de casser le rythme de la sédentarité. Et puis après, bon, globalement, l'idéal, c'est de faire 30 à 40 minutes de vélo ou de marche par jour. Hein.
Oui, parce qu'on est coincé dans cette posture au travail, mais j'ai l'impression que... on est aussi coincé dans ce travail tout court. On est une génération, le Covid a changé beaucoup de choses avec une quête de sens qui doit majorer ce sentiment d'anxiété lié à l'avenir, lié à la quête de sens. Voilà, C'est un des paramètres de la fatigue.
Oui, après, c'est très individu dépendant. Vous savez, l'éco-anxiété, tout ça, ça touche certaines générations. Puis après, il y a d'autres gens qui sont plutôt dans l'action, qui disent, bon, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut agir sur les choses, contrôler notre monde, l'améliorer. Il ne faut pas non plus se désespérer. Hein. Il faut être dans un schéma où il faut être conscient qu'il y a énormément de choses qui ont progressé. Et on vit quand même beaucoup mieux maintenant que par le passé. Je parle juste sur, par exemple, la durée de vie ou le traitement des maladies chroniques, qui était effroyable il n'y a pas si longtemps que ça, hein, avec des maladies où il y avait un taux de mortalité absolument effroyable. On a beaucoup progressé là-dessus. Après, la perception ou le sentiment, le premier chapitre de mon livre Antidéprime, c'est sur le World Happiness Report. Et ça décrit justement l'hétérogénéité de la perception du bonheur. Et ce que j'écris justement dans le livre, c'est que le bonheur, c'est contagieux. C'est-à-dire, si vous êtes entouré de gens heureux, vous êtes massivement plus heureux que si vous êtes avec que des gens qui disent « Oh là là, c'est la fin du monde, ça va très mal se passer ». Donc, il y a aussi une démarche un petit peu dynamique aussi à créer une dynamique collective pour être heureux. C'est important, et en particulier dans les facteurs sociétaux, les sources d'information ou de désinformation contribuent aussi pas mal à modifier la perception de notre monde environnant.
C'est ce qu'on essaye de faire chez 1000%, hein, c'est d'amener de la connaissance, d'élever un petit peu nos consciences, sans tirer sur l'ambiance qui règne en France, hein, mais j'ai vécu un petit peu à l'étranger, dans d'autres pays qui ont beaucoup moins de chances que nous, et cet aspect de collectif, de fatigue générale, transversale entre les gens, le bonheur se transmet, mais la fatigue se transmet aussi.
Je suis pas certain que la fatigue se transmette, parce que je pense que la fatigue, c'est quand même un sentiment assez personnel.
C'est l'anxiété qui se transmet, Vincent, oui. T'as pas compris encore. Je regarde
Non, mais j'essaie de voir si professeur Philippe est encore...
ça va encore, ouais. C'est le milieu de l'après-midi, mais ça va encore.
Ouais.
Non, mais c'est...
Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais je pense que le sujet qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui est passif, qu'est-ce qui est actif. La fatigue, c'est une composante extrêmement passive. Beaucoup, beaucoup de gens la subissent. Vous voyez? Par exemple, vous êtes des acteurs de l'activité physique dans votre métier. La promotion du mouvement et la promotion de certaines activités, c'est à visée thérapeutique. Donc, je suis certain que vous devez faire des séances où vous faites travailler les gens. Avec une charge physique importante, mais les gens finissent leur séance en disant « ça m'a fait un bien fou ». Or, paradoxalement, vous les avez fait travailler. Donc, il y a aussi quand même un élément à prendre en compte sur le fait que l'activité, c'est pas forcément nuisible. C'est là où la fatigue devient intéressante à analyser, parce que ça peut devenir un phénomène pathologique dans certaines conditions, et en particulier si vous subissez beaucoup le contexte.
Et si on veut rentrer un petit peu plus dans la physiologie de la fatigue, est-ce que c'est lié à notre production d'énergie? On a fait pas mal de podcasts où la mitochondrie, cet organisme cellulaire qui produit l'énergie dans nos cellules, est-ce que ça a un impact, cette production d'énergie par la mitochondrie, cette gestion du stress oxydatif?
Alors, sur la fatigue mentale, il y a vraiment, vraiment deux gros déterminants qui sont inflammation de bas grade et stress oxydatif. Donc le stress oxydatif, c'est cette production de radicaux libres là qui va un petit peu surchauffer, embouteiller les cellules, et donc ça va créer des dysfonctions et des dysrégulations. L'inflammation de bas grade, c'est un mécanisme un petit peu plus compliqué, pervers, sournois, mais qui va par exemple modifier la production et les interactions des neurotransmetteurs, et donc ça peut massivement modifier votre fonctionnement général et produire beaucoup de fatigue. Ce qui est le cas dans les maladies chroniques aussi, qui sont très inflammatoires.
Oui, tout ça, c'est lié en fait. Hein. Si on a des maladies chroniques, une inflammation de bas grade, des mitochondries qui sont dysfonctionnelles, on est fatigué. Et nous, ce qu'on a vu sur 1000%, c'est vraiment l'activité physique, qu'elle soit d'endurance fondamentale ou de puissance cardiaque, qui va permettre une meilleure vie du parc mitochondrial de nos cellules.
Ouais, mais ce qui est quand même intéressant, je trouve, et c'est une des vertus d'Antidéprime, du livre, c'est que on a un schéma général, que ce soit sur l'alimentation ou sur l'activité physique, qui est plutôt un schéma cardiométabolique. C'est-à-dire, on dit qu'il faut une heure de sport par jour ou une heure d'activité physique par jour. Ce qu'on montre, c'est que dans des contextes où on est dégradé, des valeurs beaucoup plus faibles peuvent avoir vraiment un bénéfice important. Donc, c'est intéressant quand même parce que c'est un message d'espoir par rapport aux gens qui disent « mais moi, je suis incapable de faire une heure de marche par jour ». Il y en a beaucoup, hein. Par exemple, quand vous commencez à vieillir, c'est compliqué. Vous voyez, moi, mon bureau, il est au 13e étage, donc 3 fois par semaine, avec les internes, hop, on monte à pied, en avant. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent « non, là, je peux plus me taper 13 étages d'un coup ». Donc, il y a quand même, je pense, aussi un message important dans votre podcast, c'est-à-dire les marches progressives de votre activité mentale ou physique peuvent s'adapter à votre degré d'handicap et peuvent quand même vous amener un cercle vertueux qui va vous accompagner, peut-être qui va pas faire toute la guérison, mais qui va vous accompagner dans la guérison. Et ça, je pense que c'est un message très important à faire passer aux gens, un peu comme on a fait passer un message autour du mindfulness, de la psychologie, de la relaxation, en disant « mettez à distance les problèmes ». Ben, moi, si j'avais un message à faire passer, c'est gagner en régularité de sommeil, préserver votre durée de sommeil, associez-y une petite dose d'activité physique la plus croissante possible, et vous verrez, rien que ces deux paramètres-là, associer une bonne alimentation, ça peut massivement, au long cours, améliorer votre état de santé.
Oui, c'est les petites actions comme ça. C'est sûr que de passer de 0 à 10 minutes, c'est un bien plus gros bénéfice que si on fait une heure et de rajouter juste 10 minutes à une heure, où ça aura qu'un effet, on va dire, faible à modéré. Alors que l'effet sera beaucoup plus grand si on est complètement inactif et de rajouter un tout petit peu d'activité physique.
Ouais, et ce qui est aussi intéressant dans les publications, en particulier sur la santé mentale, puisque moi c'est l'objet du travail que j'ai fourni récemment et en particulier que j'ai relaté dans le livre, c'est que l'intensité n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire que si vous avez une activité modérée mais soutenue et régulière, ça fait le même job que si vous travaillez comme un malade, vous voyez. Il n'y a pas un bénéfice si élevé que ça, il y en a un, hein, mais il n'y a pas un bénéfice si élevé que ça. C'est-à-dire, par exemple, une heure de marche dans la journée, c'est très largement suffisant pour réduire massivement votre niveau d'inflammation.
Mais quand on parle à quelqu'un de fatigué, de lui dire de faire de l'activité physique qui potentiellement peut lui rajouter encore plus de fatigue physique, d'autant plus s'il va faire de l'exercice physique intense, souvent ce que je dis aux patients, c'est « mais là, c'est juste, vous avez le système nerveux à plat, c'est pas la peine de faire de la haute intensité. Ouais. Vous en prenez suffisamment dans la tête en ce moment avec le travail, les horaires, des nuits écourtées, une alimentation catastrophique. Enfin, c'est, je pense qu'il faut aussi doser tout ça. On peut pas encaisser. On a une capacité à encaisser les contraintes qui est fixe, qui est pas infinie.
Alors, elle n'est pas fixe, elle est variable quand même, parce qu'en fonction de votre âge, en fonction de votre mode de vie, en fonction de vos objectifs, elle est très modulable, heureusement d'ailleurs. Sinon, ça sera assez dépressurgène de se dire on est calé en butée, mais effectivement, elle sous-entend qu'il va y avoir des périodes de repos associées qui vont faire que vous allez pouvoir maintenir dans le temps cette charge-là.
Et là, on parle de somnolence, on parle de fatigue et de dépression. Comment faire cet épisode sans parler de nos enfants ? Il y a quand même un héritage qu'on donne aux jeunes générations. Je vous ai entendu parler par exemple des horaires à l'école pour les enfants qui ont des besoins de sommeil différents. On impose de venir tôt à l'école. Quelles sont les habitudes qu'on pourrait mettre en place pour donner un patrimoine de santé mentale à nos enfants?
Ben, il y a une recommandation là, qui est partagée par les sociétés savantes, qui est de démarrer l'école une heure plus tard. Hein. Alors, il y a un énorme sujet avec le corps enseignant et les aspects organisationnels, ça a l'air compliqué, mais en tout cas, physiologiquement, il n'y a aucun doute. Hein. Si vous démarrez l'école une heure plus tard, on a mené des expérimentations, et le docteur Maza a mené une expérimentation pendant un an dans un collège, si je me trompe pas, où ils ont décalé justement l'heure de rentrée scolaire, ils ont montré que les jeunes dormaient plus, les jeunes étaient moins fatigués, justement, grâce à un horaire décalé, parce que les jeunes sont plutôt du soir, et donc physiologiquement, le fait de démarrer une heure plus tard, il y avait un vrai bénéfice.
Ok.
Et ça leur faisait gagner une heure de sommeil en plus, finalement.
Je crois qu'au total, ils gagnaient de l'ordre de 20 ou 25 minutes, quelque chose comme ça. Mais c'est déjà très, très bien. Hein.
Et leurs rythmes sont aussi différents. Ça qui est intéressant aussi, c'est les rythmes de nos sommeils sont aussi variables avec l'âge qu'on a.
Oui, quand on est jeune, on est plus fréquemment du soir. Quand on vieillit, on est plus fréquemment du matin. Quand on est jeune, on a beaucoup besoin de sommeil. Plus on vieillit, plus son besoin se comprime.
Les personnes qui vous disent « moi, je suis plutôt du soir », d'autres qui vous disent « moi, je suis plutôt du matin », est-ce que c'est à juste titre? Est-ce qu'on est bien placé pour s'auto-évaluer là-dessus?
Oui, alors excusez-moi, vous allez penser que je suis obsédé, mais là, dans Antidéprime, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Horn et Osberg.
Non, mais on n'est pas là pour vous juger, hein, professeur, hein, c'est les auditeurs qui chargeront.
On est là pour apprendre.
Je plaisante, mais vous pouvez y aller aussi. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram ou TikTok parce qu'on l'a mise en ligne. Et c'est une échelle très simple. Je crois qu'il y a 5 questions qui permettent de déterminer votre temporalité. La temporalité, c'est en gros votre propension à vous coucher tard, lever tard, intermédiaire, ou coucher tôt, lever tôt. Et donc, il y a des outils qui permettent assez facilement de déterminer votre temporalité. Et c'est assez intéressant de faire l'expérience parce que souvent, ça permet... aux gens de prendre conscience du fait que physiologiquement, ils sont plutôt sur un terrain du soir, alors que psychologiquement ou socialement, il y a beaucoup de gens qui veulent plutôt se centrer sur le matin, parce que ça permet de faire plus de choses dans la journée, vous voyez. Donc, mais culturellement et génétiquement, il y a 25% de la population qui est du soir, quand même.
Oui. 25% du soir, 25% du matin et 50% d'intermédiaire.
Ouais.
Et vous pouvez rappeler juste l'échelle? Ce que je vous ai coupé tout à l'heure.
Horn, avec un H, Horn et Otsberg.
C'est plus Saint-Philippe, hein, quand même.
Exact.
Et je vous avais écouté aussi sur le Miracle Morning. Ouais. Vous étiez plutôt critique. Moi, de mon expérience, c'est que j'étais vraiment quelqu'un du soir. Et je pense qu'avec Pierre, on a pas mal vécu la nuit. J'ai changé complètement ça et ça a été aussi très épanouissant en termes de fatigue, en termes d'énergie. J'ai vraiment beaucoup progressé. La notion que je voudrais vous partager, c'est le temps pour soi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un contre-la-montre du temps pour soi. Ils passent toute leur journée sans jamais vraiment passer du temps vraiment à prendre plaisir. Et le fait de prendre plus de temps pour soi le matin, bah c'est déjà couper court à ce contre-la-montre infernal du temps pour soi.
Oui, mais si vous le prenez au détriment de votre durée de sommeil, vous allez être infernalement fatigué, quoi. C'est ça la grosse erreur du morning miracle. Ça n'a pas de sens.
Ça a du sens si c'est adapté.
Ouais, enfin les recommandations, c'est levez-vous à 4h ou 5h du matin quand même.
Ouais, mais je pense qu'il faut être comme tous les livres, c'est comme si on
livre. Couche à 19h30, par exemple.
Non, mais c'est comme tous les livres. Je pense qu'il faut essayer de se l'approprier, d'essayer de voir ce qui fonctionne chez soi. Et l'idée, c'est pas d'être dans une dictature du lever très très tôt et de faire l'ensemble des tâches qu'il y a à faire. Mais
c'est la définition du morning miracle. Hein. La définition du morning miracle, c'est vous enlever 3 heures de sommeil. C'est très clair. Il n'y a pas de morning miracle à 6 heures du matin, par exemple. Ça n'existe pas.
Mais c'est du temps perdu de dormir, de toute façon. Oui.
Mais de toute façon, nous, on est 1000%. On est tous les extrêmes. Bon, voilà, ils sont pas trop les bienvenus, mais c'est plutôt le bon sens qui règne chez 1000%.
Peut-être ce qui serait intéressant de voir, c'est, Vincent, toi, ce que tu as expérimenté, c'était de te lever plus tôt. Ça te permettait aussi d'avoir une meilleure pression de sommeil et aussi d'améliorer la qualité de ton sommeil. C'est le retour que tu m'en as fait. Et si on écoute le premier épisode qu'on a fait avec le professeur Philippe, ça fait sens quand même. Si on part pas sur une idée de réduire la durée du sommeil, forcément.
Oui, mais de toute façon, il faut écouter le premier épisode qu'on a tourné ensemble. Professeur Philippe, moi, j'étais là, mais en fait... Je pouvais pas parler parce que ma connexion était pas là, mais j'ai bien écouté. Et je pense que de venir réguler notre sommeil par l'heure de réveil pour augmenter cette pression du sommeil et favoriser l'endormissement, moi, ça a été quelque chose qui a changé ma vie. Hein, donc,
Non, mais après, ce qui se passe aussi, c'est que en vieillissant, on a souvent plus de responsabilités. Comme vous le dites, on a des enfants. Les enfants, ils vous projettent très violemment dans un monde du matin parce que ils dorment beaucoup, donc ils se couchent tôt le soir, mais par contre, le matin, ding, 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 ding. Donc, il y a aussi un changement avec un entraînement très, très fort social qui fait que, par exemple, entre 18 et 25, 28 ans, il y a énormément de gens qui changent de vie, quoi. Après, il y a certaines personnes qui vont le faire assez facilement, en particulier tous les intermédiaires, parce que la marge d'ajustement est moindre. Les sujets vraiment, vraiment du soir, quand vous leur dites de lever 6h30 pour donner le petit déjeuner et à 7h15, on est dans la voiture pour amener le fils ou la fille à 8h à l'école, c'est compliqué, quoi, hein, pour beaucoup, beaucoup de gens, en particulier les gens qui sont à la campagne, hein, vous voyez. Moi, j'ai plein de messages sur mes comptes Instagram et TikTok où les gens disent « Mais vous rêvez, nous, on a 3/4 d'heure de voiture pour emmener les enfants à l'école. » Et puis, il n'y a pas de ramassage scolaire, hein, on est dans la campagne. Donc, voilà, il y a quand même tout un contexte qui fait qu'on a plutôt une contrainte temporelle matinale pour amorcer les activités sociales et professionnelles. Et les activités ludiques, elles sont plutôt réservées à l'espace nocturne. C'est pour ça que le Morning Miracle, c'est délirant, parce que c'est rajouter de la contrainte personnelle à une contrainte socio-professionnelle. Vous voyez, il y a très très peu de gens, par exemple, qui décident de se lever à 6h du matin quand ils peuvent embaucher à 9h. Les gens qui embauchent à 9h, ils se lèvent classiquement à 7h30. Il y a un modèle que moi j'aime bien, c'est vous regardez le taux d'audience des matinales, vous voyez. La matinale de 5h30, elle n'a pas du tout la même audience que la matinale de 7h. Vous voyez, et c'est pas un hasard, parce que dans la population, il y a un pourcentage de gens quand même qui démarrent plutôt à partir de 7h moins le quart, 7h, vous voyez, et qui correspondent à un coucher aux alentours de 23h, donc des besoins assez normaux dans la tranche 7-9.
Oui, donc celui qui était fait pour guetter toute la nuit dans le village, lui, il regarde que la matinale de 10h, c'est ça que vous voulez dire?
Par exemple, oui, ou alors ils sont à tour de rôle, enfin oui.
Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur ces histoires de chronotypes, et on en revient toujours dans ce podcast à l'individualisation. On essaye toujours d'avoir des recettes toutes faites pour tout le monde. Il faudrait faire comme ça, et ça peut se transposer à n'importe quel individu. Il faudrait manger comme ça. Il faut manger vegan, c'est la meilleure des façons. Il faut manger carnivore, c'est la meilleure des façons. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des paramètres individuels avec un patrimoine génétique ou des variations interindividuelles. C'est bien plus compliqué que ça. Sur ces différents chronotypes, par exemple, sur un chronotype tardif, du soir, est-ce que c'est sain quand même de se coucher à minuit, 1h du matin?
Si c'est votre calage biologique, il n'y a aucun problème.
Et donc, avec l'échelle de Horn, on arriverait à pouvoir…
Vous savez, moi, ce que je dis aux gens, c'est appréhender vos besoins quand vous êtes sur un rythme naturel. Quand vous êtes en vacances, que vous ne faites pas la Java, que vous ne sortez pas, que vous n'avez pas tous ces éléments-là, vous voyez, qui peuvent vous décaler, que vous jetez les horloges, les montres, les réveils, les téléphones, tout. Voilà. Physiologiquement, à quelle heure vous avez envie d'aller vous mettre au lit? Et sans réveil, à quelle heure vous vous réveillez? Vous faites ça 15 jours d'affilée, vous allez avoir votre chronotype très rapidement décrit.
Il y a une autre problématique, c'est quand on vit à deux, il faut trouver quelqu'un qui a le même chronotype que soi. Alors
c'est un bon commentaire, c'est assez rigolo parce qu'on a montré qu'en fait les gens ils s'ajustent. Et alors il y a plein d'études assez rigolos. Il y a des études où ils ont fait vivre des gens dans des espèces de communautés comme ça, voire même dans des bunkers. Et ils ont montré que c'est soit le leader intellectuel, soit la personne qui a la période moyenne du groupe qui va caler l'horaire. C'est-à-dire, en gros, au bout d'un moment, tout le monde se cale et on se lève à peu près tous les jours à la même heure, mais avec des déterminants communs. Il y a même des études encore plus incroyables où ils ont montré que, en faisant vivre des femmes ensemble, la période des règles, à un moment donné, se synchronise. Donc, il y a vraiment, il y a des séquences biologiques comme ça. Très intéressantes, peuvent se synchroniser, parce que c'est pas du tout une généralité, mais il peut y avoir des alignements. En tout cas, sur les rythmes de sommeil, pour revenir à ce dont on parle, l'élément important, c'est vraiment l'horaire de lever qui va vraiment conditionner quand même l'horloge, parce que socialement, c'est l'élément le plus fort, et couplé aux besoins de sommeil. Donc en gros, schématiquement, vous devriez choisir votre heure de lever par rapport à vos besoins sociétaux, et après, vous devriez programmer en gros ou aménager un horaire potentiel d'endormissement 17 heures après. C'est ça la bonne façon de faire.
Et oui, il y a toujours ces 17 heures là. C'est vraiment, c'est pas pour insister, mais quand même.
Il y a des gens qui ont besoin de 16. Hein, vous voyez, les gens qui sont gros dormeurs, ils vont avoir. Ouais, et puis les petits dormeurs, ils vont faire un 18. Mais bon, c'est, encore une fois, il y a des variations interindividuelles. Mais le message, c'est de dire de la régularité et puis un certain quota de durée d'éveil pour avoir une bonne pression.
Oui, donc 15, c'est pas suffisant. C'est ce qui se passe le week-end où.
Mais si vous avez 15 heures, ça veut dire que vous êtes un très très gros dormeur. Or, ça, on sait que dans la population, des gens qui dorment 10 heures.
Ou vous êtes en jet lag. C'est-à-dire, le dimanche, je me suis levé à 10 heures. Et puis, après, derrière, je veux me coucher à 23 heures pour être en forme le lundi matin. Et en fait, j'ai que 13 heures d'éveil. Ma nuit, ça, ce sera vraiment pas optimal dans ce cas de figure, par exemple.
Mais surtout, vous vous endormirez pas. Si vous n'avez pas la pression de sommeil, bon, à la limite, l'horloge peut vous favoriser un endormissement, mais vous aurez des éveils nocturnes très présents.
Et le lundi sera difficile. La régularité, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. En vous réécoutant, c'est vrai que vous nuancez avec les variations qu'on peut connaître, et donc il faut pas être très strict dans notre régularité. Je pense que c'est un message important. Moi, ce que je pourrais vous rapporter, c'est je suis très bien dans mon quotidien, mais alors dès que j'ai un changement, peu importe lequel, j'ai beaucoup de difficultés à m'adapter. Vous comprenez que je me suis trouvé. Je suis voilà, j'ai un très bon sommeil, je suis très régulier dans mon quotidien. Mais dès qu'il y a un changement, un événement, alors là c'est la perte de contrôle.
Ben voilà, alors il faut garder une petite souplesse, une petite plasticité, mais en gros la règle pour finir notre entretien, c'est qu'un bon sommeil, c'est un sommeil partagé et c'est un sommeil qu'on peut s'allouer sans que ça soit une contrainte massive à la fois sociale et physiologique. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de dormir la quantité de sommeil dont on a besoin, et ces clés de régularité et de qualité, c'est des éléments qui vont vous permettre de rentrer dans une logique physiologique acceptable. Je pense que le point important, c'est de dire aux gens, vous n'êtes pas obligé de dormir 9 heures, vous n'êtes pas obligé de courir le 100 mètres en 15 secondes, il faut que vous fassiez des choses qui correspondent à votre physiologie, et c'est ça le plus important, et c'est un élément de prévention de santé générale qui est extrêmement important. Voilà. Nous sommes merci, arrivés à 16h15. Ça a été un plaisir de vous parler. Si vous avez des éléments complémentaires, n'hésitez pas. Passez-nous la date de diffusion parce que vraiment, nous, on a des podcasts qui sont super relayés maintenant, vraiment, quand on cross-poste. Et puis, bon, à votre disposition, mais je pense qu'on a délivré un message assez...
C'était très bien.
Et complémentaire. Normalement, ça devrait...
C'était magnifique, professeur Philippe. Maintenant, on est capable de créer un studio et peut-être qu'on viendra à Bordeaux. Donc, si jamais on pourra tourner.
Plus où est-ce que vous êtes basé, vous ?
Partout.
Non, on est partout, mais on est capable de créer un studio et de venir sur Bordeaux.
C'est où ?
Moi, je suis à Paris.
Hein ?
Lui, il est à
Paris. Paris, Montpellier.
Ouais.
Parce que moi, je fais plein de studios à Paris. Hein. Mais un studio capsule, là, qui est vachement bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc.
Oui, oui. Mais nous, on a appris en fait à avec un monteur vidéo à créer notre propre studio avec donc on vient avec table de mixage, caméra, lumière et on se disait pourquoi pas faire les plus grandes villes de France. Et donc voilà, si ça vous tente, vous rencontrer en direct et parler ensemble, ce serait génial.
Ouais, mais honnêtement, nous sur les, créer un studio sur mon lieu de travail à l'hôpital, c'est pas la meilleure des idées.
Ah non. Dans un lieu annexe.
On loue un appartement et puis voilà.
Professeur Philippe, merci beaucoup pour votre temps. Je pense que
je vous en prie. Et puis écoutez, Je pense que l'idée, c'est de promouvoir des messages comme ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'associer les règles d'hygiène physique et d'activité avec le sommeil. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment bien. Et je pense que ça porte un peu l'écho sur la santé globale en associant le sommeil avec l'activité physique. Donc, je pense manger, bouger, dormir, c'est top.
Mais c'est ce qu'on fait, c'est la transversalité sur la santé.
C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps.
Mettez-nous un petit commentaire pour remercier le professeur Philippe de son temps et pour valoriser le podcast. Les 5 étoiles, vous connaissez.
Et
le livre qui déprime du professeur Philippe, qui sera le meilleur cadeau à offrir à la belle-mère pour Noël.
Ou au beau-père.
Ou au beau-père, c'est
ou
ça.
Ou à soi-même.
Ou à soi-même.
Merci beaucoup. Merci beaucoup encore et bon sommeil à tous.
Allez, au revoir.
Salut. Merci.
Au revoir.